السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، on s'est arrêté la fois dernière, toujours dans la bataille de Uhud. Et là, on a dépassé, ou plutôt on a vu, comment la tendance s'est renversée. Puisqu'on on a vu pendant plusieurs épisodes que la tendance était du côté des musulmans, qu'ils avaient le dessus, qu'ils gagnaient la bataille. Et que la cavalerie a finalement réussi à passer, après trois tentatives où ils ont échoué, la cavalerie a réussi à passer puisque les 40 archers sur 50 ont abandonné leur poste pour aller rejoindre l'armée des musulmans qui était divisée en deux parties. Une partie qui était dans le camp des idolâtres en train de ramasser le butin et une deuxième partie qui était en train de pourchasser les derniers fuyards parmi les idolâtres, et qui était en train de tenter de mettre un terme au dernier noyau de résistants autour d'Abou Soufiane. Et donc on a parlé de cette problématique des archers. On a parlé également, on s'est posé la question de savoir est-ce que les anges ont participé à la bataille ou non. Et on a vu la divergence qu'il y avait entre les savants sur cette question. Et on a parlé la semaine dernière de la mort du porte-étendard des musulmans, le compagnon Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu. Le compagnon Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, alors qu'il est le porte-étendard, au moment où la cavalerie arrive à passer, il va être tué, sachant qu'on avait également expliqué qu'il va y avoir une grande confusion dans l'armée des musulmans et que cette confusion, elle va être causée par plusieurs choses. La première, c'est l'abandon des archers de leur poste. La deuxième, c'est le fait que la cavalerie arrive à passer. La troisième, c'est le cri que les cavaliers idolâtres, à la tête desquels il y a Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, vont faire un cri assourdissant tous ensemble pour alerter les idolâtres qui sont devant. C'est bon, on arrive par derrière, donc revenez. Donc ce cri aussi va les perturber. La perte de l'étendard, ils voient bien qu'il n'y a plus d'étendard de musulmans qui flottent dans le ciel. Ils ne voient pas, ils ne trouvent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et inversement, l'étendard idolâtre, lui, il flotte haut dans le ciel alors qu'il avait été laissé par terre depuis le début de la bataille lorsque les 11 idolâtres des Bani Abdiddar n'ont pas réussi, malgré leur duel, à maintenir l'idolâtre haut dans le ciel. Donc tout ça va causer plus, on le verra plus tard, la rumeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a été tué. Et même un idolâtre qui est persuadé de l'avoir tué, puisqu'on avait dit la semaine dernière que celui qui a tué Mus'ab ibn Umair, ibn Qami'a, il va tuer Mus'ab ibn Umair, et Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, il a un air de ressemblance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il va tuer Mus'ab ibn Umar, il va retourner vers son camp en criant « J'ai tué Mohammed. Qataltu Mohammedan, qataltu Mohammedan. J'ai tué Mohammed, j'ai tué Mohammed. » Et donc ça, c'est entendu à la fois par les idolâtres, ça leur fait remonter le moral, et c'est entendu aussi par les musulmans, qui pour la plupart y croient, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Donc, et en plus, ils ne le trouvent pas, ils le voient pas. Il est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? On va expliquer pourquoi ils ne le voient pas, ça on l'expliquera plus tard. Non. Donc, puisqu'on a parlé la semaine dernière de l'étendard des musulmans, il est tombé, pourquoi il est tombé, Mus'ab ibn Umair, il a été tué, etc. On va s'intéresser aujourd'hui à l'étendard des idolâtres. Nous, on avait dit, il y a quelques épisodes, que l'étendard des idolâtres... C'est un honneur qui revient à une tribu, la tribu des Bani Abdebar. Je ne reviens pas là-dessus, on en a assez parlé, on était même revenu, on avait remonté la chaîne historique pour comprendre depuis quand dans la Jahiliya, il avait été décidé que l'étendard, Raya, elle revient à la tribu des Bani Abdebar. À un tel point que pour la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a respecté cette tradition ancestrale, puisque l'étendard des musulmans, il l'a donné à qui ? À Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, il est de quelle tribu ? Il est de la tribu des Bani Abdebar. Donc tout ça, on l'avait vu en détail, je ne reviens pas là-dessus. En tous les cas, on avait expliqué qu'il y avait 7 personnes de la même famille, donc 3 frères, leur père, 2 oncles, qui ont pris l'étendard et qui ont défié en duel et qui ont été tués, et l'étendard tombe. L'étendard tombe. 7 personnes d'une même famille des Bani Abdebar. Non. Plus 3 autres personnes des Bani Abdebar, d'autres familles, qui eux aussi ont été tués. Plus une 11e personne des Bani Abdebar, qui a été tuée par Hamza ibn Abdel Muttalib. Et donc l'étendard, il est resté par terre. Et là, nous, ce qu'on sait, c'est que l'étendard, il va être repris. On a une version qui nous l'explique. Cette version, c'est laquelle ? C'est celle d'Ibn Ishaq. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ibn Ishaq ? Il nous dit « Haddathana ba'du ahli al-ilmi ». Certains gens de science nous ont raconté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire des gens de science, ils nous ont raconté une histoire à propos de l'étendard. Mais ça, ce n'est pas une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission, on a besoin de savoir qui. Un tel. Et lui, il l'a entendu de qui ? D'un tel. Et lui, il l'a entendu... C'est ça. Et quand on a cette chaîne de transmission, aad ! Ça ne veut pas dire que c'est authentique. Ça veut dire aad, on peut aller faire une enquête. Donc là, on ne peut pas faire d'enquête sur ce que Ibn Ishaq nous dit. Mais en tout cas, la chose qui est vraie, c'est que lui, il dit... Des gens de science de son époque, qui vivaient à son époque, qui avaient la science, ils leur racontent cette histoire. Après, est-ce qu'elle est véridique ou non ? On n'a pas de chaîne de transmission pour le vérifier. Qu'est-ce qui est dit dans cette histoire ? Alors, c'est ça qui est intéressant aussi de savoir. C'est que dans n'importe quelle autre culture, quand on raconte l'histoire, l'histoire d'un peuple... Et qu'on arrive, imaginez-vous, Ibn Ishaq, il a vécu à quelle époque ? Il a vécu au 3e siècle de l'Hégire. Il a vécu dans les premières générations, après la mort du prophète sallam. Imaginez-vous que vous arrivez à avoir le témoignage de quelqu'un qui a vécu 10 siècles avant vous. Vous l'avez son témoignage, il a vécu 10 siècles avant vous, et il a vécu 1 siècle et demi, 2 siècles, après l'événement. Dans n'importe quelle autre culture, ça c'est une source sûre. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure ? Rien ne nous permet de l'authentifier. Parce que la rigueur qui a été mise en place par les savants du hadith, c'est qu'on a besoin d'une chaîne de transmission précise. Et que cette chaîne de transmission précise n'est pas suffisante, on a besoin de pouvoir enquêter sur cette chaîne de transmission. Mais nous, à notre époque, ça va être difficile d'enquêter. C'est ceux de l'époque qui enquêtaient sur ces chaînes de transmission comme Bukhari, Muslim, Hakim, Dhahabi et d'autres. Aujourd'hui, si on enquête sur les chaînes de transmission, c'est quoi ? On va aller dans les livres. Tel narrateur, les savants, ils ont dit que... Donc tu vas faire confiance à des siècles après ce que les livres disent. C'est pour ça que les véritables muhaddiths, c'est ceux de l'époque. Ceux qui allaient rencontrer ceux qui allaient à la rencontre, qui faisaient des longs voyages pour aller à la rencontre du dernier narrateur vivant, pour l'entendre de sa bouche réciter le hadith. Et ensuite, il l'écrivait. Moi, je l'ai entendu d'un tel. Ah, je l'ai écrit ici. Et lui, il m'a certifié qu'il l'a entendu d'un tel. Qu'il lui l'a entendu d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et on regardait les dates de naissance et de mort. Est-ce que ça se recoupait? Est-ce qu'ils avaient vécu au même moment? Comme par exemple le Bukhari. Le Bukhari, quand il s'est mis à étudier la science, il a terminé. Il a clôturé la mémorisation du Coran à l'âge de 7 ans, le Bukhari. À l'âge de 7 ans, il a terminé le Coran. Et après ça, il habitait en Ouzbékistan, à Bukhara. C'est pour ça qu'on l'appelle Bukhari. Mais son vrai nom, c'est Mohammed ibn Ismail. Il est parti, d'abord dans la ville de Bukhara, il est parti chez les Mohaddith pour étudier. Et à l'âge, alors qu'il n'avait encore que 10 ans, il est parti étudier le Hadith, il a commencé à mémoriser les Hadiths. À un tel point qu'on raconte de lui, un de ses chouyours dans le Hadith, il disait... Cet enfant mémorise 70 000 hadiths. Il connaît par cœur combien ? 70 000 hadiths. Ça, normalement, c'est les grands. C'est les savants, quand ils ont atteint un certain degré de science, ils ont des dizaines de milliers de hadiths. Lui, alors qu'il était encore un enfant, il avait emmagasiné, mémorisé 70 000 hadiths. À un tel point qu'un jour, un savant lui a dit, « C'est toi l'enfant à propos duquel on dit qu'il connaît 70 000 hadiths ?» Il a dit, « Non, ça, c'est faux. C'est ce que les gens y disent. » Il dit, ah ben je me disais bien, c'est trop. Il dit, non mais c'est pas parce que c'est pas faux parce que j'en connais moins, c'est faux parce que j'en connais plus. Non. Le Bukhari, pourquoi je parle de lui, alors qu'il était encore un jeune enfant et qu'il étudiait avec un savant du hadith, l'Udali, à un moment, donc ce savant du hadith, il connaît par cœur les hadiths. Donc il cite la chaîne de transmission, les Ananou, on est tous ce que les muhaddithines, ils appellent des mudallis. Les mudallis, c'est celui qui dit, un tel a dit, alors qu'il n'a même pas vécu à son époque, il ne l'a pas entendu. Et nous, quand on cite un hadith, on fait quoi? On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les muhaddithes de l'époque, s'ils existaient, ils nous auraient dit, vous êtes des menteurs. Ils auraient dit, vous êtes des menteurs. Vous êtes des gens peu fiables. T'as vécu toi autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? C'est qui t'a dit ça? Tu l'as entendu de qui? Ah, tu l'as même pas entendu de quelqu'un, tu l'as lu. De où? Google, qui? Bill Gates? Ah, c'est ça ta chaîne de transmission. Ah ouais. Non. Ils étaient très précis sur ça. Tu ne peux pas dire un tel a dit si tu ne l'as pas entendu de lui. Et c'est pour ça que Ibn Ishaq, on parle toujours d'Ibn Ishaq, c'est quand même un grand savant. Et pourtant, il était considéré comme modèle-lisse. Pourquoi? Parce qu'il avait cette tendance quelquefois à dire un tel a dit alors qu'on avait... réussi à prouver qu'il ne l'avait pas entendu lui directement d'un tel. Donc il disait non. Pourtant c'est vrai, un tel il l'a dit. Mais il ne l'a pas dit à lui directement. Il l'a dit à un autre, qui cet autre l'a dit à lui. Mais comme il ne l'a pas dit clairement, alors c'est la preuve qu'il n'est pas fiable à 100%. On doit faire attention à ce qu'il dit. Bref, pourquoi je raconte tout ça? Pour vous dire le Bukhari, alors qu'il était encore un jeune enfant et que son cheikh, le Rondali, il récite le hadith. Il a son livre, mais il ne regarde plus le livre. Là, il connaît. Donc le cheikh récite un hadith pour que les étudiants y notent. Et il dit, « Rawa Abu Zubayr an al-Nakhi'i. » Abu Zubayr, il rapporte de Nakhi'i. Donc on n'a pas encore le hadith. Là, on commence à peine une chaîne de transmission. Donc il dit, « Abu Zubayr, il rapporte de l'imam al-Nakhi'i et l'enfant qu'est al-Bukhari, il l'arrête, il l'interrompt. » Il dit, « Ah, cheikh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une erreur. Abu Zubayr n'a pas pu entendre de Nakhiri. » Le cheikh lui dit, je sais ce que je dis. Écris. Le Bukhari dit, moi je ne peux pas écrire ça. Moi aussi je sais ce que je dis. C'est impossible qu'Abu Zubayr ait entendu de Nakhiri. Pourquoi? Parce que Al-Bukhari, dès son jeune âge, il apprenait le hadith. Il apprenait par cœur les chaînes de transmission et il apprenait par cœur au minimum, s'il n'arrivait pas à apprendre toute la biographie de chaque narrateur, au minimum il s'imposait de connaître par cœur la date de naissance et la date de mort de chaque narrateur pour voir si ça colle. Vous imaginez? Parce que dans les chiffres on s'embrouille vite. Un tel il est né en telle année, un tel il est mort en telle année, il est né en telle... Comme ça dans la chaîne de transmission, il voit lui il est né en telle année, il est mort en telle année. Est-ce que ça coïncide avec le... Ben non, ils n'ont pas vécu à la même époque. Comment il a pu entendre de lui? Donc il lui a dit, je ne connais pas le hadith. Mais je connais Abu Zubayr parce que c'est un narrateur qu'on retrouve dans les hadiths. Et je connais Nakhiri, c'est un narrateur qu'on retrouve dans les hadiths. Ils ont pas, c'est pas possible qu'Abu Zubayr ait entendu de Nakhiri. Classe. Il lui dit, Rja'i ilal asl. Bukhari, il dit à son cheikh, retourne à la référence, regarde le livre, pour être sûr. Je lui dis, on va regarder le livre, c'est dit, Allah. Il a regardé le livre, et là, il s'est excusé, il dit, c'est vrai. Il manquait quelqu'un, il manquait un intermédiaire. Ajib, yani. Non. Tout ça, pour vous dire la minutie dans laquelle sont les savants musulmans dans les chaînes de transmission, dans les chaînes de hadith. N'importe quelle histoire pour n'importe quelle autre culture, si on arrive à vous rapporter quelqu'un comme Ibn Ishaq. Nous, on a l'ouvrage d'Ibn Ishaq. On a l'ouvrage de Al-Bukhari, qui a vécu dans les années 300 et quelques de l'Hégire. Donc c'est quand même des gens qui remontent il y a très longtemps, qui ont certes vécu 2-3 siècles après les événements en question, mais pour nous, ils ont vécu il y a 10 siècles avant nous. Dans n'importe quelle autre culture, on va dire, ah ben c'est une source fiable et très sûre, parce que c'est une source très ancienne. Pour nous, on dit non. Il y en a, ils sont trop éloignés de l'événement. On a besoin d'une chaîne de transmission qui les lie à l'événement. Et une chaîne de transmission sur laquelle on peut être en capacité d'enquêter. Donc c'est pour cela que je vous dis, pour cette histoire de l'étendard, on n'a pas de source authentique dans le sens que les savants du hadith ont donné à l'authenticité. Mais on peut prendre en compte qu'à l'époque d'Ibn Ishaq, c'est-à-dire 2 siècles après la bataille de Uhud, il y avait les gens de science, les savants de l'époque, qui racontaient cette histoire. Pour eux, ils l'avaient entendue. Et donc, est-ce qu'elle est authentique ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, eux, ils la racontaient. Et comme on a déjà dit à plusieurs reprises, quand il s'agit juste de raconter l'histoire, même si on a un doute sur l'authenticité, tant qu'il ne s'agit pas d'en tirer une conclusion et d'en faire un hukm, un statut dans la vie de tous les jours, une pratique religieuse dans la vie de tous les jours, on peut la prendre juste pour la raconter. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Ishaq ici dans cette version? Il dit « Haddathani ba'du ahlul ilmi » Certains gens de science m'ont raconté. أن اللواء لم يزل أن لواء المشركين لم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية. Il dit, des gens de science m'ont raconté que l'étendard des idolâtres, il est resté à terre après les duels, et que l'étendard, il est tombé. Pendant tout le début de la bataille, quand les musulmans y gagnaient, l'étendard, il est resté à terre. L'étendard des idolâtres, le drapeau des idolâtres, il est resté à terre. Hatta akhadatu Amratu bintu Alqamah al-Harithiyya. Jusqu'à ce que Amra, la fille de Alqamah al-Harithiyya, parmi les idolâtres, il y avait un groupe de femmes qui sont venues. Et parmi ces femmes, il y avait cette femme qui s'appelle Amra bintu Alqamah al-Harithiyya. Jusqu'à ce que ce soit elle qui vienne et qu'il le ressaisisse, qu'il le reprenne. Hatta akhadathu Alqamah bintu Amratu bintu Alqamah al-Harithiyya. Farafa'athu li Quraysh. Et elle l'a élevé pour les Quraysh. Falathu bihi. Et ils se sont tous regroupés autour de l'étendard. À quel moment? Au moment où les archers sont descendus et que la cavalerie a réussi à passer. Cette femme a vu ça et elle était pas loin de l'étendard où il était tombé. Elle est partie et elle a pris l'étendard et elle l'a levé. Et elle s'est mise à crier et à dire, j'ai repris l'étendard autour de moi. Et les idolâtres qui commencent à fuir et tout ça, donc ils voient la cavalerie arriver et ils voient qu'une femme, honte à eux, une femme a repris l'étendard. Donc évidemment, ils commencent à se regrouper autour d'elle pour protéger l'étendard et pour protéger cette femme qui a eu plus de bravoure et plus de courage que... Prendre l'étendard à ce moment-là, quand 11 personnes l'ont pris et qu'ils sont morts, ça veut dire quoi à ce moment-là, prendre l'étendard? Ça veut dire mourir. Donc plus personne n'osait le prendre. Et pourtant, elle est venue, elle a repris l'étendard et elle l'a élevé dans le ciel. Elle l'a brandi dans le ciel. Et donc ils se sont tous mis... Et donc un deuxième noyau a été créé autour d'elle pour aller combattre les musulmans. Donc la version, elle nous dit, et c'est une histoire comme on a dit qu'on racontait à l'époque d'Ibn Ishaq, et c'est des savants qui l'ont raconté. Falathu bihi, ils se sont regroupés autour de l'étendard. Ensuite, il nous précise également, Ibn Ishaq, « وَكَانَ اللِّوَاءُ مَعَ غُلَامٍ وَكَانَ اللِّوَاءُ مَعَ صُعَابٍ غُلَامٍ لِبَنِ طَلْحَ حَبَشِي » Et l'étendard était avec, avec le Su'ab, un homme qui s'appelait Su'ab. « وَكَانَ اللِّوَاءُ مَعَ صُعَابٍ » C'était son nom. C'est qui cet homme? Ghulam, un jeune homme. Ghulam, les Bani Talha, qui appartenait à la tribu des Bani Talha. Su'ab, c'est un jeune homme qui appartenait à la tribu des Bani Talha. Habashi, un Éthiopien. Un jeune homme qui appartenait, c'est-à-dire un esclave en fait. Et donc il nous précise ici quelque chose que nous on n'a pas vu dans les autres versions, parce qu'il n'y a rien qui permet de l'authentifier et il n'y a rien qui permet de le dire, si ce n'est cette version d'Ibn Ishaq. C'est qu'un jeune homme, il dit « وَكَانَ آخِرْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ » Il a été le dernier à prendre l'étendard après tous ceux qui sont morts. Le dernier à le prendre, c'était qui? C'était Su'ab. Il a pris l'étendard. « فَأَخَذَهُ وَكَانَ آخِرْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ » Il a été le dernier parmi les idolâtres à prendre l'étendard juste avant la femme. « عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةُ » Al-Harifiyya. Et donc, il a pris cet étendard, il nous dit, si on en croit cette version, وَكَانَ آخِرْ مَنْ أَخَذَ أَلِّوَاءَ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى قُطِعَتْ يَدُهُ. Et il a combattu avec l'étendard jusqu'à ce qu'on lui ait tranché les mains. فَبَرَكَ عَلَيْهِ Et il s'est assis sur l'étendard وَأَخَذَهُ بِرَأْسِهِ وَعُنُقِهِ بِصَدْرِهِ وَعُنُقِهِ Et il a tenté de saisir l'étendard avec sa poitrine et son menton. فَأَخَذَهُ بِصَدْرِهِ وَعُنُقِهِ Il l'a pris avec sa poitrine et son menton. Hatta qutila alayhi, jusqu'à ce qu'il fût tué dessus. Il a été tué sur l'étendard. Et après ça, donc il nous donne cette précision, Ibn Ishaq, c'est à ce moment-là que, après ça, alors que l'étendard était par terre, plus personne n'osait le prendre. Amra, cette femme idolâtre, bintu alqam al-harithiyya, elle est venue et elle a pris l'étendard. Ah. Et on a d'ailleurs un poète musulman, un compagnon musulman, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit, qui était connu pour être le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui selon encore une fois Ibn Ishaq, il a fait référence à ces événements dans ses poèmes. Le premier c'est concernant Su'ab, et il a blâmé les idolâtres. Hein? Il les a fait rougir de honte à travers ses rimes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Fakhartum billiwa'u wa sharru fakhri » لِوَاءٌ حِينَ رُدَّ إِلَى سُعَابِ فَخَرْتُمْ بِاللِّوَاءِ وَشَرُّ فَخْرِ لِوَاءٌ حِينَ رُدَّ إِلَى سُعَابِ ظَنَنْتُمْ وَالسَّفِيهُ لَهُ ظُنُونُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ الصَّوَابِ Donc il dit d'autres rimes, non, on se contente de ces deux-là. Ça veut dire quoi? Il dit فَخَرْتُمْ, vous vous êtes vanté. Ah, vous êtes enflé d'orgueil. Pour quelle raison vous vous êtes vanté? Fakhartum bil liwa, pour le liwa, pour l'étendard. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous êtes vanté pour l'étendard. Wa sharru fakhri. Et quelle mauvaise vantardise. Quelle vantardise mal placée. Wa sharru fakhri. Liwa'un hina rudda ila su'abi. Au moment où Su'ab il a repris l'étendard. Parce que c'est qui Su'ab? C'est un Éthiopien esclave qui appartient à la tribu des Bani Talha. C'est-à-dire que vous vous en êtes vanté que vous l'avez repris, mais au final, qu'est-ce qu'il a repris? Su'ab, un esclave, un jeune esclave. Et c'est de ça que vous vous vantez. Honte à vous. Il pourrait dire, c'est une femme qui l'a repris, honte à vous. Ça, on va voir ce qu'il dit sur la femme après. Et donc, il faut de tout. Non. Et donc, il les blâme en fait. il se raille d'eux, il se moque d'eux. Et il dit, vous avez cru qu'eux et les plus vils, les plus mauvaises personnes, croient toujours des choses qui ne sont pas vraies. Vous avez cru qu'eux, et c'est la démarche des gens les plus vils, ils croient toujours des choses qui ne sont pas vraies. Vanantum wassafihu lahu dhununu, falaysa dhalika min amri sawabi. Et ceci ne fait pas partie de la vérité. Naam. Mais il parle aussi de Alqama, de Amra, bintu Alqama. Qu'est-ce qu'il dit dans son poème? Il dit, إِذَا عُضَالٌ سِيقَتْ إِلَيْنَا كَأَنَّهَا جَدَايَةُ شِرْكٍ مُعْلَمَاتُ الْحَوَاجِبِ. إِذَا عَضَلٌ سِيقَتْ إِلَيْنَا كَأَنَّهَا جَدَايَةُ شِرْكٍ مُعْلَمَاتُ الصَّوَائِبِ مُعْلَمَاتُ الْحَوَاجِبِ. Lorsque la tribu de Adal, la tribu de Adal, c'est une des tribus de Quraysh, qu'en fait il fait référence à cette tribu, pour parler de l'armée des idolâtres. Et lorsque la tribu de Adal, Siqat ilayna, est venue à nous, à la bataille de Uhud, ka'annaha, comme si elle était, jadayatu shirkin. Jadaya, c'est quoi? C'est la petite antilope. Une antilope en arabe, c'est dhaba. Et le jadaya, c'est l'enfant qui vient de naître de l'antilope. Donc, pour les définir, il fait cette métaphore pour les définir de manière faible et fragile. Vous êtes venus à nous avec votre tribu comme des toutes petites antilopes qui viennent de naître, hein, qui tiennent à peine sur leurs pattes, qui trébuchent. كَأَنَّهَا جَدَايَةُ شِرْكٍ مُعْلَمَاتُ الْحَوَاجِبِ. On voit bien les antilopes, ils ont des sourcils qui ressortent fort, et on voit bien leurs yeux. Avec leurs yeux qui sont terrifiants. Le reste, quand tu la regardes, elle est là, elle vient de naître, elle essaye de se mettre debout, elle tombe. Donc il fait cette métaphore. On vous voit avec vos yeux comme ça, mais makin walou. Et donc il fait référence à quoi? Au fait que, au début de la bataille, quand eux ils ont gagné, vous êtes venus à nous, comme ça avec vos yeux, vous étiez nombreux, comme un troupeau d'antilopes, et finalement il n'y avait rien du tout, parce que vous étiez comme un troupeau de jeunes antilopes. Non. Ensuite il dit فَأَقَمْنَا لَهُمْ طَعْنًا مُبِيرًا مُنَكِّلًا أَقَمْنَا لَهُمْ طَعْنًا مُبِيرًا مُنَكِّلًا. Nous vous avons répondu, nous vous avons reçu en vous poignardant. مُبِيرًا طَعْنًا, c'est les coups de lance, les coups d'épée, les coups de flèche. طَعْنًا مُبِيرًا Mubiran, qui font périr. Munakkila, qui décime. On vous a décimé, on vous a fait périr avec les coups de lance, avec les coups de lame. Darban min kulli jawanibi. Et on vous a frappé de tous les côtés. Donc là, il décrit le début de la bataille. Et ensuite, il vient au moment où elle a pris Amratu bintu Alqamah al-Harithiyya à l'étendard. Il dit, falawla لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. Et s'il n'y avait pas l'étendard de الحارثية, donc de عمرة بنت علقمة الحارثية, أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب, ils auraient été devenus des marchandises, des esclaves qu'on vend dans les souks, dans les marchés. La seule chose qui les a sauvés de ça, c'est quoi? C'est l'étendard de الحارثية, c'est-à-dire c'est une femme. Donc, entre guillemets, votre victoire, parce que c'est comme ça qu'il réfléchit le Jahiliya, c'est une femme, donc on t'avoue les hommes. Ah, c'est du machisme, mais à l'époque, tout le monde était macho. Non, c'était le code, c'était la règle de l'époque. Et donc, on t'avoue, parce que finalement, ce qui vous a sauvé, c'est une femme qui a eu plus de courage et plus de bravoure que vous, qui est partie reprendre, ressaisir l'étendard, et le brandir. Non. Donc ça, c'est ce qui concerne l'étendard. Ensuite, on a parlé la semaine dernière du fait qu'il va y avoir une grande confusion dans cette armée et que ça va conduire même à ce que les musulmans ils s'entretuent. Donc quand ils vont être pris en étau, il va y avoir cette confusion. Et beaucoup de musulmans vont mourir, non pas de la part des coups d'épée reçus par les idolâtres, mais de la part de coups d'épée perdus. Parce que les musulmans ne comprennent plus rien. Avec tout ce que je vous ai dit, tout ce qui les a perturbés, plus le fait qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Non. On a deux versions qui nous citent un événement qui nous montre vraiment à quel point les musulmans étaient dans la confusion la plus totale. Ces deux versions, elles nous parlent de l'événement, d'un événement, c'est le fait que Al-Yaman, un compagnon qui s'appelle Husayl ibn Jabir Al-Yaman, a été tué, il a été tué par les musulmans. On le sait avec certitude par ces versions, par deux versions qui sont authentiques. Une parce qu'elle est chez le Bukhari, l'autre elle est chez Ibn Ishaq, mais elle a été authentifiée. C'est qui Husayl ibn Jabir al-Yaman? C'est le père du compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman. Le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est un compagnon connu, très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement proche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des secrets, entre guillemets, des secrets d'État. Des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne révélait qu'à quelqu'un qui pouvait garder les secrets. Et au cas où il meurt ou lui arrive quelque chose, il a ses secrets d'État. Comme les codes de la bombe atomique ou là, des trucs comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses secrets, il les a révélés à qui? Il a choisi ce compagnon-là, Hudhayfa ibn al-Yaman. Il lui avait révélé, par exemple, la liste des hypocrites. Les compagnons ne connaissaient, savaient qu'il y avait des hypocrites. Ils avaient des doutes sur certaines personnes, mais ils n'avaient aucune certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait. Un à un. Il les a révélés à qui? À Hudhayfa ibn al-Yaman. À un tel point qu'on raconte que le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il venait à chaque fois voir Hudhayfa ibn al-Yaman après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a laissé le secret des noms des hypocrites. Oui. Dis-moi si je fais partie d'eux. Il ne vient pas pour savoir c'est qui fait partie d'eux. Des... Il a peur pour lui, il se dit, j'en sais rien, moi, est-ce que je suis vraiment dans la voie ou si je suis hypocrite? Hudhayfa ibn al-Yaman. Arrête. De toute façon, je ne peux pas le dire. Et donc, à chaque fois, Omar ibn al-Khattab, il revenait. Et un jour, comme il a vu qu'il était vraiment sérieux, que ça lui faisait de la peine, il voulait vraiment savoir, il voulait... Il lui a dit quoi, Hudhayfa ibn al-Yaman? Il lui a dit, mais comment tu pourrais faire partie des hypocrites alors que toi, tu es la lune des gens du paradis? Le professeur Salim, il t'a surnommé, tu es la lueur, la lune des gens du paradis. Comment tu peux faire partie des hypocrites? Et c'est pour ça aussi que certains compagnons, quand quelqu'un mourait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de ne pas prier sur les endettés, hein, sur ceux qui suicidaient, ou sur les hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Sallu ala sahibikum ». Mais il ordonnait aux gens de prier sur lui. Il disait « Priez pour lui. Faites la janaza pour lui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait. Pourquoi? Parce que la prière de janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose en plus. Il y a la janaza que les musulmans font, c'est le devoir que les musulmans doivent faire, doivent appliquer. Et il y a la janaza que le prophète sallallahu alayhi wa sallam applique, ça c'est une récompense en plus pour le mort. Et donc, celui qui est endetté, il ne la mérite pas. C'est pour ça que quelquefois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui mourait, il disait, est-ce qu'il avait, il était endetté? On disait oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, sallu ala sahibikum. Et il est arrivé qu'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, dise, je m'acquitte de ses dettes, je me charge de ses dettes, je les paye. C'est moi qui les paye tout de suite. Qu'est-ce qu'il il devait à qui, quoi et combien? Je lui donne. Pourquoi? Pour que le professeur Sam fasse la prière et que cette personne puisse mériter ça. Non. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que Hudhayfa ibn al-Yaman, qui avait ce secret des hypocrites, certains compagnons qui voulaient suivre cette tradition du professeur Sam, ils regardaient Hudhayfa ibn al-Yaman après la mort du professeur Sam. Quand quelqu'un mourait, ils regardaient Hudhayfa ibn al-Yaman. Est-ce qu'il est là dans la prière? Ouais. Est-ce qu'il reste pour le janaza? Ah, il se faufile, il part. Ça veut dire, Zarma, il était hypocrite, donc nous aussi on va se faufiler. Aïe, ouais. Bah, ça, c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, voilà. Non, à la kulli hal. Donc, Hudhayfa ibn al-Yaman, son père va mourir malheureusement. Il va donc mourir en martyr, mais malheureusement, il va mourir de l'épée des musulmans. Et ça va être créé par deux causes. La première, c'est la confusion qu'il y a dans la bataille, comme on l'a expliqué. Et la deuxième cause, c'est quoi? il n'est pas censé être là. Il n'est pas censé être à Uhud. Les musulmans sont sortis de Uhud, ils ont fait leurs adieux à cet homme. Parce qu'il était vieux et donc il ne participait pas à la bataille. Ils lui ont dit, c'est tout, au revoir. Donc ils sont partis sans lui. Et jusqu'au début de la bataille, à aucun moment, il les a rejoints. Donc il n'était pas censé être là. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là? Comment ça se fait qu'il se retrouve là alors qu'il n'est pas censé y être? Eh bien, c'est simple. On a deux versions, on va commencer par celle de Bukhari. Elle n'est pas complète, elle n'est pas détaillée, mais elle a le mérite d'être beaucoup plus authentique que d'autres puisqu'elle est rapportée et authentifiée par le Bukhari. عن عائشة رضي الله عنها سلو عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد lorsque c'était le jour de la bataille de Uhud هزم المشركون les idolâtres ont été vaincus, ils ont été battus, les idolâtres ils ont été battus, هزم المشركون. Donc elle parle de quoi, عائشة رضي الله عنها? Elle parle du début de la bataille quand les idolâtres ils étaient en train de perdre. هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه. Et Iblis, le diable, صرخ, il a crié, il a hurlé. Et elle dit, لعنة الله عليه, qu'Allah le maudisse. Il a dit quoi? أي عباد الله أخراكم. Oh serviteur d'Allah. Je peux pas lui dire autre chose que shaitan. Je veux l'insulter, je vais vous lui dire shaitan, bah c'est ça, c'est lui, c'est shaitan. Il dit, ô serviteur d'Allah, comme ça, donc il a crié ça pour que les gens croient que c'est un musulman qui parle. Ibad Allah, ukhrakum, faites attention à vos arrières. Parce qu'il y avait certains musulmans, ils étaient tellement dans la bataille ou en train de ramasser le butin qu'ils n'ont pas vu la cavalerie arriver. Et lui, Shaitan, il a besoin que les musulmans, ils la voient. Pourquoi? Parce que quand ils vont la voir, ils vont être terrifiés, ils vont arrêter de continuer à combattre. Ils vont essayer de se sauver, ça va créer une confusion. Il a voulu créer cette confusion, cette peur. Donc, il a voulu créer cette peur. Il a voulu les terrifier. Et donc il leur dit, Ibad Allah, ukhraakum. Ô serviteurs d'Allah, faites attention à vos arrières. Et la version nous dit, elle nous dit, Afwan, Faraja'at ulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum. Et donc les grands du début des musulmans, ils sont revenus. Parce que quand ils ont entendu quelqu'un, et ils croyaient que c'était quelqu'un parmi eux, dire, ô serviteur d'Allah, faites attention à vos arrières. Et ils se sont retournés, et ils ont vu la cavalerie arriver, ils se sont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Donc ils se sont dit, oui, il faut aller voir aux arrières ce qui se passe et surveiller les arrières, on va être pris en étau. Et donc ils sont revenus en arrière. Et il dit à ce moment-là, فَجْتَلَدَتْ أُولَاهُمْ فِي أُخْرَاهُمْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ. Les premiers rangs, ils sont rentrés dans les derniers rangs et ils se sont combattus sans se reconnaître. فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَنِ. Le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, il s'est mis à regarder, à observer. فَإِذَا بِأَبِيهِ حُسَيْلْ ibn Jabir al-Yaman. Et il a vu que son père était là, alors que normalement il n'est pas là. Mais ça, on va le savoir dans la version d'Ibn Ishaq, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là. Il a dit, il a vu que son père était là. Et donc lui-même était étonné parce que son père n'était pas censé être là. Et donc il a dit, Abi, Abi, attention, il y a mon père, mon père. Et la version, elle nous dit, فَوَاللَّهِ مَحْتَجَزُ حَتَّى قَتَلُوا. Et ils n'ont cessé de combattre jusqu'à ce qu'ils l'ont tué, sans savoir que c'était lui et sans... Il a beau dire Abi Abi, il faut déjà l'entendre, et après il faut savoir de qui il parle, et en plus même si on voit à peu près de qui il parle, mais qu'est-ce qu'il raconte son père? Et son père, il n'est pas venu. Tout le monde était sûr et persuadé qu'il n'était pas venu, son père. Et ensuite... فقال, la version nous dit, فقال حذيفة بن اليمان يغفر الله لكم, qu'Allah vous pardonne. Hudayfa ibn al-Yaman, son père a été tué dans ces conditions, et il dit qu'Allah vous pardonne. Donc là, c'est la version globale dans l'authentique de Bukhari, sans les détails. Si on prend la version d'Ibn Ishaq, Ibn Ishaq, il nous dit que selon Mahmoud ibn al-Abid, donc cette version, elle est d'Ibn Ishaq. Mais Ibn Ishaq, comme je vous avais dit, il est considéré comme non fiable parce que quelquefois il pratique le tadlis. Le tadlis, c'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de dire j'ai entendu d'un tel alors qu'il ne l'a pas entendu directement de cette personne. Mais il y a une règle avec Ibn Ishaq que les muhaddiths ils ont donnée. C'est quoi? C'est que quand Ibn Ishaq, il dit un tel a dit, c'est pas fiable. Mais quand il dit clairement j'ai entendu un tel dire, quand il est explicite, parce que les muhaddiths ils ont fait des savants, ils en arrivent à cette conclusion. Toutes les chaînes de transmission sur lesquelles ils ont enquêté, à chaque fois, en fait, c'était sa façon de faire comprendre si lui il l'a entendu directement ou non. Quand il l'a pas entendu directement, il dit un tel a dit. Et quand il l'a entendu directement, il dit, j'ai entendu un tel dire. Et donc il dit An Mahmoud ibn al-Abid. Donc Mahmoud ibn al-Abid, c'est le dernier des narrateurs. Pas le dernier des narrateurs vivants au temps d'Ibn Ishaq, mais le dernier des narrateurs au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on a levé pourquoi cette version elle ne serait pas fiable. On a dit parce qu'il pratiquait le tadlis, sauf que là, il ne l'a pas pratiqué puisqu'il a clairement dit qu'il l'a entendu du dernier vivant. D'accord? Il y a une deuxième raison qui pourrait rendre cette version pas authentique, c'est que le dernier, donc celui si on remonte au-dessus jusqu'au moment où l'événement a eu lieu, qu'est-ce qu'il nous le rapporte? On a besoin d'un compagnon qui a vécu les événements. Le dernier, c'est Mahmoud ibn al-Abid, radiyallahu anhu. Mahmoud ibn al-Abid, il y a des savants qui disent qu'il était compagnon. Alors, tous les savants s'accordent à dire qu'il est né à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour être un compagnon, c'est pas juste avoir vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avoir vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que musulman et être mort dans cette situation. C'est-à-dire être mort après avoir rencontré au moins une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman. Et il y a divergence entre les compagnons. Les savants s'accordent à dire qu'il est né Mahmoud ibn al-Abid à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il diverge, est-ce qu'il a rencontré ou non le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que musulman? Est-ce qu'il était compagnon? Et en réalité, la majorité des savants des narrateurs, ils s'accordent, ils sont majoritaires à dire qu'il était compagnon. Radiyallahu anhu. Et d'ailleurs, un très connu, le Bukhari. Le Bukhari fait partie des muhadiths qui ont dit « Mahmoud ibn al-Abid, c'est kana lahu suhba ». Et comme le raconte aussi le muhadith Zahabi, Shams al-Din Zahabi. Donc, à la kulli hal, l'avis majoritaire chez les muhadithines, c'est que cette version, elle est authentique. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a été dit dans cette version qui est plus détaillée que celle de Bukhari. On nous dit que Mahmoud ibn al-Abid, radiyallahu anhu, il dit « Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Uhudin, waqa'a Husaylu ibn Jabirin, wa huwa al-Yaman, Abu Hudayfa ibn al-Yaman, wa Thabit ibn Waqsh ibn Za'ura, fil a'tami ma'an nisa'i wa s-sibyan ». Qu'il dit, Mahmoud ibn al-Abid, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour aller à la bataille de Uhud, il est sorti pour aller à la bataille de Uhud, Husayl ibn Jabir, qui est le père du compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, lui, il n'a pas été. Ni lui, ni un ami à lui qui s'appelle Thabit ibn Waqsh ibn Thabit ibn Waqsh ibn Za'ura. Les deux, ils n'ont pas été. Pourquoi? Parce que justement, après, il nous dit « فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ وَهُمَا شَيْخَانِ كَبِيرًا » Et donc, ils n'ont pas été. « فَوَقَعَ فِي الْأَطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ » Ils se sont assis sur les dunes avec les femmes et les enfants. Parce que comme on le verra à la fin de la bataille, dès que le petit matin va se lever, les femmes de Médine et les enfants de Médine vont venir à la périphérie de Médine et vont se mettre sur les dunes pour essayer de voir ce qui se passe. Et justement, certaines de ces femmes vont intervenir quand ils vont voir la débandade chez les musulmans. Et on verra comment. Donc les femmes et les enfants se sont mis là pour accueillir les musulmans. Ils commencent à accueillir des fuyards, comme on le verra. Parmi les musulmans, il y en a qui vont fuir. Et donc il y a des rumeurs, le professeur Sam a été tué, la bataille est perdue. Et ils voient au loin la débandade. Et donc, le père de Hudayf ibn al-Yaman, Husayl ibn Jabir, et son ami, Thabit ibn Waqsh ibn Zahwara, ils se sont mis là sur les dunes avec les femmes et les enfants. في الأطام مع النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران et l'un d'eux a dit à l'autre, on ne sait pas qui exactement a dit à l'autre, mais on sait qu'ils ont discuté entre eux et que l'un il a dit à l'autre alors qu'ils sont tous les deux, et c'est pour ça qu'on a la raison pour laquelle ils ne sont pas sortis, ils sont tous les deux des personnes très âgées et vieilles, comme ils sont des vieillards, des vieux, on leur a dit non, vous n'y allez pas vous. Et finalement, quand ils se sont retrouvés sur les dunes, ils ont regardé autour d'eux. Il y a des femmes et des enfants. Donc ils se sont dit, ça ne se fait pas. Et donc l'un a dit à l'autre, « La abalaka matantadir. » Point de père à toi. Qu'attends-tu ? Point de père à toi, que tu n'aies pas de père. C'est comme si on demandait que tu n'aies pas de père. C'est une insulte, ça. C'est une grave dua. Mais en vérité, c'est une expression en arabe. Une expression qui peut signifier l'étonnement, quand on est étonné de quelque chose, ou qui, quand on veut blâmer quelqu'un, on veut dire vraiment, toi, tu fais n'importe quoi. La abalaka. Quand quelqu'un il fait n'importe quoi et on veut lui montrer qu'on n'est pas content, on peut lui dire la abalaka. Dans le sens, tu mériterais qu'on invoque Allah que tu n'aies pas de père, tellement tu fais n'importe quoi. Parce que c'est que les gens qui le méritent qui peuvent avoir un père. C'est dans ce sens-là, yani. Ou alors, quelquefois, c'est pour faire les éloges, pour faire les compliments. Vous allez me dire, bah, attends, tu dis la abalaka, pas de, point de père à toi, et c'est, tu fais les éloges. Naam. Ils disent quelquefois on peut l'utiliser pour les éloges, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi, point de père à toi? Ça veut dire, tu sais tellement te débrouiller tout seul que tu n'as plus besoin de père. Point de père à toi. Mashallah, ce que tu as fait. C'est dans ce sens-là. Les gens qui ont besoin de leur père et tout, c'est quand ils sont encore petits, qu'ils ont besoin qu'on leur apprenne, parce qu'ils trébuchent, parce que ceci, parce que cela. Mais c'est tout, toi tu as un niveau. C'est toi qui vas enseigner à ton père maintenant. Tu n'as plus besoin de père. Aïwa. Ça c'est la linguistique et les proverbes en arabe. Mais en tous les cas, l'un d'entre eux a dit à l'autre, « La abalaka matantadir. » Point de père à toi. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? « Fa wallahi, in baqya lana dhim'u. Fa wallahi, in baqya lana illa dhim'u himar. Fa ma nahnu illa hama al-yawm aw ghadin. » Il dit, wallahi, si ne nous restait que dhim uhimar, in baqiya lana min al-umri dhim uhimar. Ça, c'est aussi une expression en arabe, un proverbe arabe. On en a deux ici. Et ça enrichit nos connaissances dans la linguistique et dans les expressions arabes. S'il n'y avait pour nous, si je vous l'ai dit littéralement, que dhim u, ça vient en arabe de dhama, la soif. Dhama, c'est la soif. Al-dhim'o, c'est la petite soif. Et dhim'o, c'est quoi? C'est en fait le temps qu'il y a entre deux moments où on a bu de l'eau. Quand tu as soif, pour savoir si tu as très soif ou pas très soif, yarni, tu comptes le temps. Si tu as bu un peu le matin et tu bois après 4 heures plus tard, ça va, lui, il n'y a pas soif. Si tu bois maintenant et 30 secondes après tu rebois, et 35 secondes après tu rebois, il y a combien de temps? Il n'y a que 30 secondes. Quelqu'un qui a très soif. C'est ce qu'on appelle al-dhim. Al-dhim, c'est le temps qu'il y a entre deux moments où tu as bu. Vas-y, trouve-moi un mot en français qui veut dire ça. Moi, j'ai dû te l'expliquer pendant 5 minutes. Trouve-moi un mot en français. Il est tout seul, ce mot, il veut dire tout ça. Ajib, il y a la langue arabe. Il y a un mot pour dire ça. Al-dhim. Non. Le temps qu'il faut pour boire entre deux instants. Oui. À toi de trouver le mot tout seul qui peut dire ça. Tu ne peux pas dire la boisson. La boisson, c'est quand tu bois. Non, on parle du moment où tu n'as pas bu. Entre deux instants où tu as bu. C'est ça. Alors que shorb, c'est la boisson, c'est le fait de boire. Mais non, on veut désigner le moment où... Non. Alors cette expression, elle veut dire quoi? Parce que lui, il a dit le dhim o himar. Ce temps-là, d'un âne. Les Arabes considéraient que chez tous les animaux, les chevaux, les chameaux, les ânes, ceux où leur moment était le plus court entre deux moments où ils devaient boire, c'était les ânes. Ils étaient des animaux plus assoiffés que les autres. C'est pour ça qu'ils les utilisaient moins que les chevaux et encore moins que les chameaux, parce que le chameau, il va boire beaucoup à un moment et après, il peut rester des jours et des jours sans boire. Il n'y a pas de problème. L'âne, non. L'âne, tu lui fais faire quelques efforts, il a besoin de boire beaucoup. Et donc, ça rétrécit les moments. Et en fait, c'est une expression en arabe pour dire quand il ne te reste plus rien. Et il ne te reste qu'un court instant, tu utilises cette expression, il ne nous reste que le temps qu'il faut entre deux boissons pour un âne. In baqiya lana illa dhimu himar. Et donc il lui dit, s'il ne nous reste, on est vieux, donc il nous reste quoi à vivre, toi et moi? On est vieux. Il nous reste le temps qu'il faut pour un âne à boire. Donc il lui dit, nous serons de toute façon des dépouilles, des cadavres, soit aujourd'hui, soit demain. Si ce n'est pas aujourd'hui par la bataille, ce sera demain par quelque chose d'autre. Mais bref, on est vieux, il ne nous reste plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on attend? Ne prendrions-nous pas nos épées pour rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? لعل الله عز وجل يرزقنا شهادة في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peut-être qu'Allah il va nous privilégier, nous donner la mort en martyr aux côtés du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فخرجا. Ils sont sortis tous les deux. حتى دخل في الناس. Jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans les gens, dans l'armée. ولم يعلم بهما. Et personne ne le savait. Parmi les musulmans, personne ne savait qu'ils étaient en train de venir. Et ils n'ont pas pu prévenir parce que c'était la confusion, la débandade. Donc là, c'était soit sauf qui peut, soit ceux qui essayaient de se défendre. Et eux, comme ils étaient venus pour mourir, ils sont rentrés dans les gens pour combattre. Et la version nous dit فَأَمَّا ثَابِتُ بْنُ وَقْشْ فَقَتَلَهُمْ مُشْرِكُونَ. Quant au compagnon Thabit ibn Waqsh, il a été tué par les idolâtres. وَأَمَّا حُسَيْلِ بْنُ جَابِرْ الْيَمَانِ. Le compagnon Husayl ibn Jabir, le père de Hudayfa ibn al-Yaman, fakhtalafat alayhi asyaful muslimin. Les épées, les sabres des musulmans, ils se sont croisés, mélangés contre lui. Ils ne l'ont pas reconnu, il a été tué dans cette confusion, parce qu'il n'a pas été le seul à être tué dans cette confusion, mais lui, on a des textes précis qui le désignent. C'est pour ça qu'on le sait. Fakhtalafat alayhi asyaful muslimin, faqatalou, walam ya'rifou. Ils l'ont tué sans savoir qui il était, en pensant que c'était un idolâtre. فَقَتَلُوهُ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ. Ils ne l'ont pas reconnu. فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ أَبِي وَاللَّهِ. C'est mon père, Wallah. C'est mon père. Lui, il l'a reconnu, c'est son père. Même si lui aussi, il ne comprend pas ce qu'il fait là, à ce moment-là, en tout cas, il l'a reconnu. Lui, il a la certitude. Donc, il crie, c'est mon père. Mais trop tard, il a été tué. Et donc, ils vont dire, Wallahi in ra'ayna. Ça veut dire, mais Wallah, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu que c'était lui. Et la version elle précise, wa sadaq. Ils ont dit la vérité. Vraiment, ils ne l'avaient pas vu, ils ne l'ont pas reconnu. Faqala Hudayfatu ibn al-Yaman, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Qu'Allah vous pardonne. Et il est le meilleur des miséricordieux. On tue ton père. Tu vas dire tout de suite comme ça, qu'Allah vous pardonne. Tu vas d'abord zaraf un petit peu, faire ton deuil, hein, prendre les dommages et intérêts, et ensuite, bon, je vous pardonne. Mais randek, hein. Aïwa. Alors non seulement il pardonne immédiatement, il dit qu'Allah vous pardonne, et en plus cette version nous dit quoi? Falamma arada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yadiyahu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui donner le prix du sang, parce que quand on tue quelqu'un involontairement, sans faire exprès, comme par exemple un accident ou quoi, on doit donner le prix, payer le. En ce moment, on dit que ça a atteint le kilo et quart d'or. La valeur d'un kilo, un quart, un kilo 250 grammes d'or. Non. À la coulée, ça, c'est des calculs que les savants ils font. En tout cas, il y a un prix à payer. Sauf si la personne, elle pardonne. فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ Et lorsque le prophète a voulu payer la diya, تَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Hudhayfa, il l'a donné en sadaqa pour les musulmans. Ça veut dire quoi, il l'a donné en sadaqa? Ça ne veut pas dire qu'il a pris et après il l'a distribué. Ça veut dire qu'il a dit, c'est les musulmans qui doivent payer. Ils ont tué son père. فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Ne payez pas, je vous la donne en aumône. Je vous ai pardonné. Puisque même le Coran, il le dit, parle en ces termes. Quand on pardonne, c'est qu'on fait une sadaqa. C'est qu'au lieu de prendre le prix du sang, on dit, garde-la pour toi. C'est comme si tu lui donnais. C'est comme si tu l'avais reçu et que tu lui avais rendu. Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا Et lorsqu'un croyant tue un autre croyant involontairement, par erreur, il doit affranchir un esclave et payer une diya, une sentence. À qui ? À la famille du défunt. Illa an yassaddaqu, sauf si ils font l'aumône. Et les savants, ils disent, ça veut dire quoi, ils font l'aumône ? Ça veut dire, ils disent, je te pardonne. Garde-le. Donc c'est comme s'ils l'avaient pris et qu'ils l'avaient rendu. Et ouais, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, c'est ce qu'il a fait ici. Et la version, elle termine par dire, فَزَادَتْهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا Et ça n'a fait qu'augmenter le bien que pensait le prophète sallam à propos de Hudhayfa ibn al-Yaman, et c'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallam va le choisir comme celui qui va garder ses secrets, etc., etc. Donc là, après ça, après ces événements-là, ce qui va se passer par la suite, c'est le fait qu'un certain nombre de croyants vont fuir. Comment ça va se passer, cette fuite? Qui va être concerné? Est-ce que certains compagnons, comme on peut voir dans certaines versions, est-ce qu'elles sont authentiques ou pas, comme Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, aurait été concerné ou non? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.